Pauline Pucciano, La cité hantée, chapitre 11, Retour aux sources. Le cheminement avait été long et difficile, à cause des enfants dont les petites jambes devaient s'agiter deux fois plus pour couvrir la distance des adultes, et à cause des fardeaux qui pesaient sur leur dos. Ils n'avaient pas emporté grand-chose et avaient laissé le campement presque intact. Néanmoins, les quelques ustensiles et couvertures nécessaires au voyage pesaient déjà suffisamment. Ils campèrent la dernière nuit en vue d'Albâtre. La nuit était assez claire, la lune était croissante et bientôt à son apogée, et ses rayons capricieux traversant de loin en loin les nuages faisaient reluire la cité blanche comme une sorte de mirage apparaissant et disparaissant dans le lointain. Irène avait couché tous les enfants en cercle et se tenait parmi eux, parfaitement éveillée, sa pierre frontale émettant une lueur lunaire qui ne troublait pas la quiétude de la nuit. Le sans-mémoire était à quelques pas et regardait sans cesse vers la cité, attiré par elle comme par un magnétisme puissant. Il s'agitait et trépignait. « Le temps ne peut avancer plus vite, » remarqua Irène, d'une voix calme qui ne troublait pas plus le silence que la lumière de sa pierre ne troublait l'obscurité. « Je ne peux pas vous laisser sans protection, » murmura-t-il. « Il vaudrait mieux que tu sois capable de patienter, en effet, » dit Irène. « Je sens des présences lointaines, mais maléfiques. Et toi, que sens-tu ? » ?»« Un désir qui me brûle. » « Pour la femme qui t'attend à la frontière ?»« Pour la ville tout entière. Elle est là, ses murs blancs brillent à chaque nuage qui file, et je ne peux pas l'atteindre. Il me semble que c'est toute ma vie qui est résumée dans ce désir. »« Tu n'as jamais été en Albâtre ?»« Je ne sais pas. » Il baissa la tête, vaincu. La proximité de la ville mettait son corps en feu et son esprit en ébullition, mais sa mémoire, inerte, était toujours comme un membre paralysé. Sur les conseils d'Irène, il utilisa l'esprit pour dominer son impatience et réguler le rythme de son sang. Cette nuit fut pourtant l'une des plus lentes de sa vie. Le temps dilaté paraissait suspendu, et ce fut presque une surprise de voir les ténèbres pâlir, les formes réapparaître, et les contours de la cité sortir lentement de leurs nuages d'indistinction et retrouver leurs tracés gracieux et étrangement familiers. Après un frugal repas, les enfants, débraillés et bâillants, se remirent en ordre de marche, et ils purent enfin commencer à franchir l'espace qui les séparait du bas de la colline et des premières bâtisses isolées des faubourgs. La cité devenait à chaque pas un peu plus grande, un peu plus réelle, et le sans-mémoire, qui cette nuit eut volé pour l'atteindre plus tôt, commençait à ressentir une peur sourde et irrépressible. « Ta mémoire est la clé qui ouvre la porte de ton foyer, » lui dit Irène de sa puissante voix de verbe. « Tu ne dois pas craindre de retrouver la clé. » Le sans-mémoire se tourna vers elle, un peu apaisé. « Et si mon foyer ne me plaît pas ?»« Personne ne t'oblige à y rester, sans-mémoire, mais tu dois y rentrer pour savoir. » Elle cessa d'utiliser l'esprit et lui parla de sa voix naturelle. « Il n'y a plus de danger ici. Tu peux aller au-devant, nous nous retrouverons là-bas. » Nos chemins de vie s'entrecroiseront encore, mais ils se séparent au pied d'Albâtre. Il lui baisa la main, respectueusement, et regarda le visage souriant des enfants, puis il pressa le pas, et en quelques minutes, ils n'étaient déjà plus à portée de voix de leur petit groupe. Les faubourgs d'Albâtre paraissaient un peu désertés. Il n'y régnait pas l'agitation matinale qu'on aurait pu s'attendre à y trouver, au vu du nombre et de l'organisation des bâtisses. Le sans-mémoire avisa cependant un vieil homme qui ouvrait ses volets bruyamment. « Hola, la cité est-elle déserte ?» Le vieil homme le toisa un instant avant de lui répondre. « Non, mais le quartier n'a pas les faveurs des jeunes gens. »« Où sont-ils partis ? » ?»« Là-haut, là où ça brille. Moi, je préfère vivre là où j'ai toujours vécu. J'ai mon vieux chien, mes poules, et je suis heureux comme ça. » Le sans-mémoire passa son chemin, s'enfonçant de plus en plus dans le cœur de la ville basse. Les odeurs, les couleurs lui étaient familières, et il savait confusément qu'il avait vécu ici. « D'où c'est que tu viens avec tes haillons et ton air si fier ?» lui demanda une femme d'âge mûr qui balayait devant la porte de son petit commerce. « M'est avis que tu aurais bien besoin de nouvelles hardes, et j'en vends. » Le sans-mémoire se regarda stupidement et ressentit une honte soudaine qu'il n'avait pas éprouvée depuis 3 ans. Ses vêtements étaient en lambeaux, rapiécés avec des fibres végétales et des aiguilles d'os, et même dans cette partie pauvre de la ville, on le prenait pour un mendiant. « Je n'ai pas d'obol, » répondit-il machinalement. « Mais tu as des bras vigoureux, et moi j'ai besoin d'un coup de main. » L'affaire fut faite promptement. Le sans-mémoire transporta et débita, sans trop de difficulté, un tas de bois qui encombrait la cour de la maison de la femme, qui lui offrit quelques articles de sa boutique, en plus d'un quignon de pain. Il portait maintenant une tunique et des chausses convenables, ainsi qu'une paire de bottes qui lui plaisaient particulièrement. « Où tu vas comme ça ?» lui demanda-t-elle au moment de le quitter. « En albâtre, » dit-il, en se sentant idiot. « Une femme m'attend à la frontière. »« La frontière ?» répéta-t-elle en fronçant le sourcil. « Oui. »« Alors tu n'es pas très loin. » « Laisse le soleil à ta droite et continue dans cette direction. »« Que se passe-t-il dans la cité ? » ?»« Y a-t-il longtemps que tu en es parti ?»« 3 ans à peu près. »« Alors tu as manqué la révolution, » dit-elle d'un air amusé. « Ça, tu vas trouver du changement. » Le mot de « révolution » lui paraissait plein d'intérêt, et il demanda « Que s'est-il passé ?» La dame le considéra encore avec amusement avant de répondre. Ça s'est fait comme ça, le temps de dire ouf, personne ne l'a vu venir et personne n'y croyait. Mais ils ont réussi, l'armée du soulèvement. Ils l'ont fait, ils ont lâché ces saletés de papillons et ils ont pris le contrôle de la haute ville. Les mots de la femme dansaient furieusement dans l'esprit de Keller, comme des mouches enfermées dans un bocal. « Et depuis ?» demanda-t-il. « Ouf, depuis, ça dépend des points de vue. » Il y en a qui disent que c'est mieux, parce qu'on a le droit de se balader partout, d'habiter les palais et de faire la nique à toutes ces vieilles toges. Mais au fond, ça n'a pas tant changé. Comment cela ? Les manufactures n'ont pas fermé, les ouvriers travaillent toujours pour les patrons, et ça ne changera jamais. Il y a des petits malins qui profitent de tout ça pour se monter de belles fortunes. Et la guilde du commerce, qui censément n'existe plus, dégueule des oboles par tous les trous. Je n'en dirai pas autant de moi, avec ma boutique en ville basse. Pourquoi rester ici ? Ça, mon gars, ça ne te regarde pas. Keller inclina la tête et continua sa route. Quelques chats faméliques, aux miaulements insistants, quelques passants, quelques commerces ouverts, déparaient sur le fond général d'abandon et de solitude du lieu. Keller se souvenait vaguement du même décor, grouillant de monde, bruissant de voix. Il se souvenait qu'il fallait jouer des coudes pour traverser les places qui étaient aujourd'hui à peine fréquentées. Il se dirigeait d'instinct vers la frontière, remettant ses bottes, tout naturellement, dans l'ornière d'un chemin 1000 fois pratiqué, dans les pas de son propre fantôme. Plus il s'en approchait, plus la ville s'animait. Et lorsqu'il arriva sur les abords de l'ancien canal frontière, l'impression de familiarité qu'il avait depuis son entrée dans la ville le quitta. Cela ne ressemblait pas à ses souvenirs, cela paraissait être une autre ville. Ses yeux firent machinalement un tour d'horizon, et s'arrêtèrent sur l'enseigne de la frontière, vieille, familière, rassurante. Il se dirigea vers l'établissement comme vers l'unique point de repère qui lui resta. Il arrangea sa nouvelle tenue, puis entra. La taverne était fréquentée par une demi-douzaine de clients prenant leur collation matinale, qui ne firent pas attention à lui. La serveuse se dirigea vers lui aimablement. « Bonjour, vous désirez ?»« Bonjour, » hésita-t-il. « Une femme m'attend ici. »« Une femme ?» dit-elle en cherchant des yeux parmi les clients. « Je ne vois personne. »« Une femme m'attend à la frontière, » répéta-t-il gauchement. Légèrement mal à l'aise, la jeune fille dévisagea Keller et le détailla. Un homme grand, encore jeune malgré ses longs cheveux blancs qu'il portait en catogan. Musclé, hâlé, comme s'il avait vécu au grand air. Pas un citadin. « Il me semble que je vous ai déjà vu quelque part, » dit-elle, « mais je ne vois pas où je pourrais vous avoir rencontré. »« Idiote !» lui souffla la gérante. « Va prévenir à Eleanor !» La seconde femme qui s'était avancée arborait un air incrédule. « Maître Keller !» dit-elle à mi-voix, pour que les clients ne l'entendissent pas. « C'est bien vous ?» Keller eut un sourire désolé et un peu ironique. « Ça, c'est à vous de me le dire, ma petite dame. » Est-ce qu'on attend un certain Keller à la frontière ? La gérante le scrutait et ne songeait pas à lui répondre. Elle était avide de détails qu'elle pourrait ensuite raconter autour d'elle, et comme hypnotisée par cette apparition. « Vos cheveux, C'est incroyable! Est-ce qu'ils ont blanchi d'un coup?
Oui, mentit Keller, qui ne se souvenait toujours de rien.
La nuit de la Révolution?
Oui, continua-t-il.
Parce que vous avez cru la perdre, c'est ça?
Perdre qui? C'est alors qu'elle apparut, et sa présence éclipsa soudain tout le reste. Les serveuses, les clients, le décor même, semblaient avoir perdu toute consistance pour la laisser seule réelle. Il la regarda un moment, la bouche ouverte, comme pour s'exprimer. Chaque détail qu'il percevait était comme un coup de bélier donné sur son amnésie assiégée. Les yeux gris et profonds, les sourcils arqués, le nez un peu pointu, les cheveux noirs à demi tressés, la silhouette gracile. La cicatrice, qu'il ne put s'empêcher de toucher, dès qu'il la vit, de ses doigts effrayés.
« J'aimerais que ce soit vous, la femme qui m'attend à la frontière. »
« Keller, dit-elle simplement, tandis que des larmes de joie mouillaient ses yeux, son visage, et ruisselaient sur les doigts de Keller comme pour les laver de la poussière du voyage. « Quel est ton nom ? » murmura-t-il, et les larmes dans les yeux d'Aélénor redoublèrent.
« Aélénor, dit-elle après un temps, en se forçant à sourire, je m'appelle Aélénor, et tu es Keller. »
Keller retira sa main, et Aélénor tourna la tête quelques secondes pour reprendre le contrôle de son visage et de son cœur battant. Elle ne devait pas se laisser aller, pas le brusquer, pas l'effrayer. Il était là, et c'était tout ce qui comptait. Elle allait lui parler lorsqu'un mouvement de foule les sépara. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre et avait embrasé de proche en proche la taverne, les marches et bientôt la ville entière. Keller était revenu. Des hommes de tous âges se pressaient autour de lui et lui posaient mille questions. Des femmes lui tendaient leur enfant à bénir, on lui tapait dans le dos, on le touchait. Keller ne reconnaissait aucun visage, aucune voix à part ceux d'Aélénor, qui essayait de rester auprès de lui, mais qui ne pouvait lutter contre la foule. Il ne la quitta pas des yeux cependant, tandis qu'on l'emportait dans une sorte de tourbillon en dehors de la taverne. Il fut hissé, transporté, emmené en triomphe de par la haute ville, qui déroula pour lui sous les ovations et les applaudissements des citoyens, les beautés agressives, intimidantes de ses palais. Keller en avait la tête tournée, le cœur battant, les émotions se bousculaient si sauvagement en lui qu'elles lui faisaient mal. Loin de retrouver la mémoire, il se sentait prêt au contraire à perdre à nouveau la raison. « Assez !» hurla une puissante voix de verbe. Aélénor se fraya un chemin parmi la foule, sa pierre frontale si lumineuse que les badauds à ses côtés en étaient aveuglés. Le silence parut la calmer, et elle se força à cesser d'user du verbe. Elle adressa à Keller un sourire rassurant. « Adresse-toi à eux, supplia-t-elle intérieurement, dans un scintillement bleuté. » Les yeux de Keller, hagards une minute auparavant, avaient recouvré leur lucidité. Il se libéra des hommes qui le portaient et grimpa sur le socle d'une statue afin de s'adresser à la foule. « Mes amis, dit-il, je suis de retour parmi vous après 3 années de souffrance et d'isolement. J'aspire à retrouver ma famille en paix. Je vous remercie de votre accueil et je vous demande de réserver un accueil aussi chaleureux aux enfants spiritualistes qui se pressent actuellement aux portes de la cité. Ils sont sous ma protection. » Des têtes graves et des murmures d'assentiment succédaient au premier transport de liesse. Quelques cris fusèrent encore. « Bienvenue chez toi, Keller. Bon retour en Albâtre !» Et Keller, la main dans celle d'Aélénor, retraversa les marches en sens inverse et put enfin se réfugier, malgré les adeptes et les curieux, au second étage de la frontière. « Suis-je donc une sorte de héros ? » demanda-t-il à Aélénor, sitôt qu'ils furent seuls. « Oh, Keller, ne te souviens-tu donc de rien ?» Keller s'assit en face du miroir au teint tacheté qui lui avait servi tant de fois à se raser. « Je me souviens de ce miroir, je me souviens de ton visage, je me souviens de la frontière, je me souviens des rues de la ville basse. » Il se regarda. Il avait la quarantaine, de longs cheveux blancs qui faisaient ressortir le hâle de son visage. Mes cheveux n'étaient pas blancs, à ce que j'ai compris. Non, ils étaient noirs et courts, et tu ne portais pas de barbe. Peut-être pourrais-tu tout me raconter ? Aélénor hocha la tête. Laisse-moi essayer quelque chose d'abord. Keller ne répondit pas, mais la dévisagea. Elle paraissait si émue, si frémissante, si belle, qu'il désirait ardemment lui faire plaisir. Mais en dehors d'une impression de familiarité rassurante, d'une sympathie spontanée, d'un désir physique immédiat, il ne la reconnaissait pas. il avait l'impression de l'avoir gagnée dans une étrange loterie, elle et cette identité de héros à laquelle il ne s'attendait pas. Le verbe, c'est cela ? Naïma a déjà essayé de multiples fois, ça n'a jamais fonctionné. Naïma ? Elle a donc survécu ? Non, nous l'avons enterrée il y a quelques jours. À Eleanor tentait de mettre de l'ordre dans sa tête et de classer ses priorités. Connaître le destin des spiritualistes n'était pas le plus urgent. Elle avait envie de se réfugier dans les bras de Keller, mais ce serait comme se jeter à la tête d'un inconnu, car elle le savait et le sentait aussi à son regard, il n'avait aucun souvenir d'elle, ni de leur histoire commune. Elle devait réfléchir, agir avec prudence, avec intelligence, et cela ne lui avait jamais paru aussi difficile. Elle alla chercher la boule d'hypnose et peu à peu fit émerger des volutes mouvantes la forme familière qu'elle avait élaborée en se concentrant sur lui. Keller l'observait avec admiration. Elle était si calme et si profonde, ainsi penchée sur l'objet. Il pouvait détailler son profil et attarda son regard sur une mèche de cheveux enroulée autour de son oreille. « Tu connais l'existence de l'esprit. Est-ce que Naïma t'a appris à t'en servir ?»« Un peu, mais il y a quelque chose ici qui m'en empêche. »« Concentre-toi autant que tu en es capable sur cette forme, » lui dit-elle en lui confiant la boule. Si tu cesses de te concentrer, le motif disparaîtra et la boule redeviendra un chaos de volutes anarchiques. Cette forme correspond, d'une manière profonde, à ton ancienne personnalité. C'est par elle que j'ai pu t'envoyer des visions de la frontière. » Il regarda à l'intérieur. Le motif était joli, fascinant même, et le regard était comme happé par cette immobilité palpitante, frémissante. Et puis, sans prévenir, à Eleanor fit luire sa lumière bleue, et sa voix de verbe, très grave, très mélodieuse, retentit. Keller eut une sensation étrange. Il ne quittait pas la boule des yeux, comme elle le lui avait demandé, et il lui semblait presque que la voix venait de cette forme qui tenait en équilibre, funambule, au bord de l'informe. Descends maintenant les marches glissantes de l'escalier vertigineux. Agrippe le mur pour ne pas tomber, mais ne ralentis pas ta course. Car une force invincible te pousse vers le bas, vers le fond mystérieux d'où toutes choses ont surgi, vers le soubassement obscur, vers la cave pleine de fantômes où ton esprit s'est tapi, effrayé. Descends. À Eleanor savait qu'on risquait de l'interrompre à tout moment, de l'arrêter peut-être pour usage illicite du verbe, mais elle s'efforçait de continuer. Là, tu es à présent dans le noir originel, dans le ventre de la mémoire, dans la matrice terrible où les désirs et les peurs s'entretuent sauvagement, dans une lutte fratricide et fracassante. Entends les bruits organiques de leur combat, entends leur souffle court et leurs os qui craquent, sens la tiédeur du sang qui jaillit de leurs blessures, comme des larmes rouges. Et maintenant, regarde la face de ta peur. Elle a le visage de la domination, elle plane sur ta vie depuis ta conception, car ton père dominait ta mère, et tu portes le clivage profondément en toi-même, comme un sillon sanglant, et les lèvres de la blessure ne se referment pas. Cette bouche horrible ne parle pas, mais elle souffle, et son haleine glacée te pétrifie. Ta peur a le visage de la domination, et sous ses coups injustes, l'enfant qui survit ici tapis dans l'ombre se recroqueville et s'humilie. Ta peur a le visage de ton père, le visage de la haute ville, le visage de la puissance. Ta peur a parfois mon visage, elle est ce qui te fait enfant et ce qui te fait victime. » Elle n'était jamais allée aussi loin dans l'exploration mentale d'un autre être et éprouvait une sorte de frayeur sacrée, mais elle ne pouvait s'arrêter. Le flot de ses paroles coulait comme un fleuve. Keller, tendu, les yeux fixes et qui ne sillaient presque pas, était devenu très pâle et de longues coulées de sueur mouillaient ses tempes. Descends encore dans les ténèbres. Le désir se cache, mais il grandit au cœur de l'enfant tapis dans l'ombre. Regarde le corps de ton désir. Le désir a les muscles huilés et bandés. Il étrangle éternellement la peur, mais elle se dérobe à ce corps glorieux. Regarde son visage à présent et reconnais le visage de la domination. Il pousse dans tes veines depuis ton enfance comme une vengeance. Il est la sève qui monte en toi. La semence qui s'écoule hors de toi, il est la force qui te meut et qui t'emporte au risque de tout détruire. Il est désir de vie et désir de destruction, il est ce qui te fait père et ce qui te fait assassin. » Les lèvres de Keller se mirent à trembler à ce dernier mot, mais à Eleanor, qui chancelait d'une utilisation aussi intense du verbe, continua encore. « En deçà de la nuit originelle, il est une nuit de révolution où l'éternelle lutte a été portée à son paroxysme incandescent. Une violente nuit de sang, de feu et de victimes. La nuit où tu devais devenir père et où tu es devenu assassin. » En plus de la sueur, des larmes coulaient à présent sur le visage blême de Keller. Il se souvenait. « Les têtes qui roulent, » murmura-t-il, « l'épée au travers des chairs, l'odeur et la viscosité du sang. Je me rappelle à Eleanor. » Il semblait désemparé, brisé, et elle se précipita vers lui. « Tu n'es pas un assassin, Keller. Tu as fait la guerre pour que ton fils puisse naître dans un monde plus juste. » Keller secoua la tête, incrédule. « L'enfant ? » demanda-t-il à voix basse. « Il y en avait deux, » dit à Eleanor en étouffant un sanglot, car cette vérité n'était jamais sortie de sa bouche. « Où sont-ils ? » « Joris a emporté le premier et m'a laissée pour morte. Et puis, Artus est né. Il m'a sauvé la vie, Keller, comme nous lui avons donné la sienne. Il dort à côté. » Ils avaient tant à se dire qu'ils cessèrent de parler et restèrent un long moment embrassés, serrés à se faire mal, dans une étreinte presque désespérée. Comme un membre garrotté qui, après avoir été privé de sang, est à nouveau irrigué, la mémoire de Keller lui faisait mal. C'était une douleur atroce, tout ce temps perdu, toutes ces responsabilités fuies, tous ces actes irrémédiables. Cet enfant de lui, élevé par ses ennemis, ce petit Artus qu'il n'avait pas vu grandir, et cet autre enfant qui grandissait dans le ventre d'Irene, ce peuple qu'il avait acclamé. Étreindre en silence le corps vivant d'Aelenor, l'étreindre sans fin, était tout ce qu'il pouvait songer à faire à présent.